il y a certaines choses avec lesquelles je ne suis pas complètement d'accord, mais néanmoins, il y a beaucoup de choses avec lesquelles qui se recoupent avec ce que je vais dire. Mais peut-être une partie que vous n'avez pas traitée finalement, que je vais traiter un petit peu, c'est les hypothèses de cause des populismes. Parce que là, on a eu une sorte de comment dire, un travail de classification, descriptif, des différentes hypothèses, de définition, etc. Extrêmement intéressant, mais... est-ce que le populisme, ça marche tout le temps? Et pourquoi ça marche? Ça marche pas tout le temps. Pourquoi ça marche dans certaines circonstances et ça marche pas dans d'autres circonstances? Ça me paraît quand même être une question, même si les chercheurs se discutent sur ce sujet, c'est quand même intéressant d'émettre un certain nombre d'hypothèses sur ce sujet. Donc je vais essayer de répartir mon exposé en trois parties. La première partie, banalement, ce qui a été dit aussi, mais j'ai besoin pour pouvoir avancer. C'est la question de la définition. Hein. Et moi, je serai dans une hypothèse de définition par un noyau le plus restreint possible pour pouvoir la rendre productive et lui faire dire le maximum de choses, y compris en termes de causalité. Le deuxième partie de mon exposé, ça sera plutôt les points communs entre les différentes formes de populisme, non seulement dans l'espace, mais aussi dans l'histoire. Puisqu'on parle des années 30, on parle d'un certain nombre de choses. Et puis enfin, le dernier point, c'est sur la singularité. Est-ce qu'il y a une singularité des populismes ou du populisme, si on le regroupe en un seul bloc, du populisme actuel, dans cette situation très particulière qu'on appelle de manière générale la globalisation? Est-ce qu'il y a une spécificité, même en termes aussi, une spécificité en termes d'étiologie, en termes de compréhension, de compréhension des causes? Alors sur le premier point, la question de la définition, elle est toujours difficile effectivement en sciences sociales, puisque la plupart des notions de sciences sociales, contrairement aux notions de physique, sont des notions qui sont manipulées par les acteurs sociaux eux-mêmes. Ça a été dit, la notion de démocratie comme la notion de populisme. Moi j'ai beaucoup travaillé sur la notion de religion, mais c'est à peu près pareil dans la notion de religion. Et le problème des chercheurs eux-mêmes, c'est qu'ils sont souvent parasités par les définitions vulgaires. Et eux-mêmes ont le sentiment qu'ils n'arrivent pas à définir, peut-être parce qu'ils n'arrivent pas à s'abstraire assez des définitions populaires, si je puis dire. Je vois par exemple par rapport à la question de la religion sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, puis je vais juste ensuite basculer sur le populisme. Tout le monde dit en sciences sociales des religions, en sociologie des religions, c'est presque impossible de définir ce qu'est une religion. Parce que sinon, après, tout devient religieux, ou alors après, c'est trop restrictif, presque rien, ou alors on définit la religion, c'est presque tout le temps du politique, etc. Et j'avais écrit un petit article dans une revue de sciences sociales, la revue internationale de sociologie, où je disais, la religion n'est pas plus difficile à définir qu'une chaise. Mais une chaise, c'est pas si facile à définir. Parce que si c'est un peu plus penché, on va dire c'est peut-être un fauteuil. Il y a seulement trois pieds, on va dire justement c'est un trépied, c'est pas vraiment une chaise. Qu'est-ce que c'est qu'une chaise, etc. On voit bien que à un moment donné, il faut choisir. Et donc il y a une dimension dans la définition qui est forcément arbitraire pour pouvoir être rigoureux ensuite. Dire bon ben voilà, une chaise, c'est ça. Ça a ses caractéristiques, c'est ça le noyau d'une chaise. Là, c'est pas un fauteuil. Ça, et on arrête là. Oui. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. De la même manière, pour dire... Alors, il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est pourquoi néanmoins, ça paraît si facile de définir une chaise, si... alors qu'en réalité, il y a autant de variations que pour le mot religion, Tout simplement parce que les enjeux sociaux ne sont pas les mêmes dans la définition d'une chaise. C'est-à-dire que quand on définit la religion, immédiatement, il y a un certain nombre d'individus qui sont eux-mêmes, qui adhèrent eux-mêmes à ce qu'ils considèrent comme étant une religion, ils trouveraient anormal, s'ils sont catholiques par exemple, très pratiquants, voire intégristes, qu'on décide que le bouddhisme est une religion à part entière, parce que pour eux, ce n'est qu'une hygiène spirituelle. Donc ils ont un intérêt social de disqualification qui les pousse à définir la religion par rapport à ce qu'eux, ils considèrent comme étant important. Et bien ça peut être dans un sens ou dans un autre. Dans un contexte, qui serait le contexte actuel, où on valorise l'idée de spiritualité au détriment de l'idée de religion, on va aller dire qu'un certain nombre de pratiques ne sont pas religieuses, alors que en fait, elles sont religieuses, mais là, de façon non pas péjorative, mais au contraire, pour être laudative, c'est-à-dire pour valoriser. C'est de la spiritualité, c'est bien plus que de la religion. Oui. Donc il faut faire très attention à ça. Et donc, si on applique la même méthode, et c'est tout le temps la méthode que j'essaye d'appliquer en sciences sociales à mon petit niveau, avec le populisme, On peut, je crois, trouver un noyau de ce qu'est le populisme en le distinguant très clairement et même, à vrai dire, assez facilement de tout ce qui n'est pas le populisme. Donc je ne crois pas, moi, que ce soit un mot valise. Enfin, c'est un mot valise dans le sens où, effectivement, c'est un mot qui est usé par l'usage généralisé du mot, mais ça ne veut pas dire que c'est un mot valise au sens où on ne peut pas définir le concept précisément. Parce qu'effectivement, il y a des enjeux dans le fait de se dire populiste ou de ne pas se dire populiste qui parasitent notre capacité à définir. Donc, comme on procède souvent pour pouvoir définir positivement, on commence par dire ce que ce n'est pas, c'est-à-dire de quoi se distingue le populisme. Alors, ça a été aussi en partie dit, le populisme, pour moi, se distingue de la démagogie. Souvent, on compare le populisme à la démagogie. On dit, le populisme, c'est de la démagogie. Bon, non, la démagogie, c'est juste, pour ainsi dire, en faisant vite, on pourrait dire presque une constante des démocraties représentatives. Ça fait presque partie du fonctionnement des démocraties représentatives. C'est-à-dire, on va dire, caresser les gens dans le sens du poil pour être élu. Si on veut être représentant des citoyens et qu'on est élu, forcément, on essaye quand même quelque part de les satisfaire pour être élu. Ça, c'est assez basique. Si c'était ça, le populisme, réellement, c'est vrai que ça ne servira à rien d'en parler. Ça ne servira à rien de dire « Ah, ben, ça, c'est du populisme. » Oui, parce que là, bon, il n'y aurait que du populisme. Là, on serait dans l'hypothèse du concept tellement large qu'on ne peut plus rien en dire, on ne peut plus produire quelque chose avec. Puis il y a la deuxième hypothèse, je veux dire, c'est la définition, l'autodéfinition Mélenchon. C'est « Moi, je n'ai pas honte d'être populiste. Si être populiste, c'est être proche du peuple. » Et donc il y a toute une série, il n'y a pas que Mélenchon d'ailleurs, même à un moment donné, Marine Le Pen qui avait été critiquée disait mais je suis proche du peuple, bon j'ai pas honte qu'on dise que je suis populiste, etc., etc. Non, alors ce n'est pas non plus être proche du peuple. On peut être proche du peuple, réellement proche du peuple, sans être populiste. Le populisme, alors c'est la définition que je vais choisir, mais c'est ma définition, c'est celle qui m'aide à être productif, donc c'est un noyau, hein. Cette définition, c'est le fait de se fonder, enfin de lorsqu'un leader ou un groupe d'individus, pas seulement un leader, parle à la place du peuple, ce qui n'est pas exactement pareil. Mais dès qu'on dit à la place du peuple, immédiatement, vous vous rendez compte pourquoi, puisqu'ils parlent à la place du peuple, ils n'ont pas besoin d'institutions, puisque c'est les institutions qui sont supposées être représentatives. Donc, ils n'ont pas besoin. Donc, pourquoi ils parlent à la place du peuple? Ils parlent à la place du peuple parce qu'ils sont supposés, je rajoute une, entendre le peuple, pas l'entendre même au sens de la compréhension, mais le sentir, savoir ce que le peuple veut, le sentir avant même les institutions, les gens qui ont été élus, les tribunaux, bref, autre concept populiste célèbre, le système. Donc ça veut dire que cette idée qu'il existerait, donc premier concept, une fiction de la subjectivité du peuple total. Et même, je pourrais dire, j'emploie un terme philosophique, mais je vais expliquer pourquoi. La fiction de la subjectivité transcendantale du peuple total. Ça, pour moi, c'est le populisme. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas populisme. Parce que s'il n'y a pas ça, on peut bien dire c'est un peu du populisme, ça y ressemble, c'est de la démagogie qui est un peu populiste, on l'adjectivise, si vous voulez, on met des adjectifs, etc. Mais on ne peut pas en faire grand-chose, on est parti dans une sorte de marasme de notionnel qui n'est même pas conceptuel. Alors pourquoi fiction de la subjectivité transcendantale du peuple total? Et ça a toute une série de conséquences, ça, le fait de dire ça. Subjectivité transcendantale, ça veut dire, c'est un concept qui vient d'Emmanuel Kant, ça veut dire qu'à un moment donné dans notre histoire, et c'est une des origines de la démocratie, c'est ce qui a fait ce qu'on appelle les droits subjectifs, qui ne sont plus des droits personnels, on reconnaît la subjectivité des individus, pas seulement en termes de droits, mais au sens de leur volonté. Ce qu'ils sont, leur subjectivité, est transcendantale dans le sens où elle est supérieure à tout, elle ne peut pas être mise en cause. C'est-à-dire, c'est vrai parce que je le sens. Et c'est vrai du point de vue individuel, c'est quelque part ce qui justifie la démocratie, la volonté, c'est-à-dire l'insécabilité de la volonté. C'est du point de vue même individuel. Si vous voulez. Et du peuple total, donc subjectivité transcendantale, et du peuple total, parce que c'est l'annihilation des différences même d'intérêts, des différences de classe et des différences droite-gauche. Donc pour moi, dans ma définition, non seulement il peut y avoir un populisme de gauche, mais d'emblée, Le populisme, s'il est tendanciellement populiste, il est justement là pour surmonter la distinction droite-gauche et constituer une sorte de noyau fondé sur cette idée de subjectivité transcendantale du peuple total, c'est-à-dire total. Mais je n'ai pas dit que c'était le peuple total, c'est la fiction d'une subjectivité transcendantale du peuple total. Hein ? Ça veut donc dire qu'on gomme les différences, mais on les gomme de manière fictionnelle. C'est-à-dire qu'elles continuent à exister, ces différences de classe, ces différences d'intérêts concrets, ces différences rationnelles entre les individus, mais le populiste, il les gomme dans son discours. C'est-à-dire pour lui, elles n'existent plus. C'est-à-dire que ça ne le dérange pas d'avoir un discours qui soit social d'un côté, puis un discours qui fasse référence aux valeurs immémoriales de la tradition catholique, et puis en même temps dire qu'il est plus social. Ça ne lui dérange pas de faire appel à la liberté, qui est une valeur progressiste, et puis juste après de dire que, quelque part, il éprouve une révérence incroyable pour Jeanne d'Arc. Toutes ces différences-là qui étaient fondatrices d'un type d'identité qui peut être des identités de classe, des identités partisanes, des identités d'opposition, sont gommées par cette subjectivité transcendantale du peuple total, mais une fiction du peuple total. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas d'accord avec les auteurs qui disent qu'il peut y avoir un populisme dans l'Antiquité. Pour moi, il n'y a pas de populisme dans l'Antiquité, puisque le populisme, vous l'avez peut-être compris ce que j'ai voulu dire lorsque j'ai parlé de subjectivité transcendantale, Kant, etc. C'est une extension à l'ensemble du groupe pris comme un tout qu'on appelle le peuple, de la reconnaissance de la subjectivité individuelle qui n'existe que dans le processus de la modernité. On pourrait dire, si on le considère comme une maladie, on pourrait dire que c'est une maladie spécifique de la modernité. Donc par exemple, lorsqu'on dit que les tribuns de la plèbe dans l'Antiquité romaine étaient populistes, ils n'étaient pas populistes puisqu'ils étaient précisément tribuns de la plèbe. Et la plèbe était une classe sociale, c'était en opposition avec les patriciens. Le populiste, il s'exprime pour tout le monde, c'est-à-dire peuple total à nouveau. Mais pour qu'il puisse y avoir cette fiction du peuple total, il faut qu'il y ait cette fiction, mais qu'il ait la fiction positive de la démocratie, qui est la fiction de cette individualité totale, de cette subjectivité transcendantale qui existe chez chacun d'entre nous et qui justifie la démocratie. D'où l'ambiguïté qui existe au sein même du populisme, d'un rapport à la souveraineté populaire, mais en même temps le constitutionnalisme, ce qu'écrivait Jean Lecas, cette espèce de dialectique ou d'équilibre toujours instable qui constitue même dans un certain sens la dynamique de la démocratie. Mais lorsqu'il y a populisme, pour moi très clairement, c'est lorsqu'il y a un glissement vers ce niveau-là. Alors, maintenant que nous avons défini, je dirais que le populisme, il a besoin d'un type de vocabulaire particulier qui est, pour ainsi dire, on pourrait presque dire, le vocabulaire technique de cette subjectivité transcendantale. Et le vocabulaire technique de cette subjectivité transcendantale, ça va être, par exemple, le mot de système. Il est contre le système. Pourquoi ? Parce que le système, c'est ce qui s'oppose à la subjectivité transcendantale du peuple. C'est-à-dire, c'est ce qui s'oppose à ce que lui sait que le peuple veut vraiment. C'est-à-dire sa subjectivité. C'est ça, le système. Hein, c'est ce qui l'étouffe. Évidemment, il y a le mot de peuple lui-même. Et puis, il y a un autre mot qui n'a pas été évoqué et qui est un mot, jusque-là, et qui est un mot, il me semble, crucial, central, dans la rhétorique, si vous voulez, de cette subjectivité transcendantale populiste, c'est le mot de réel. C'est intéressant parce que le populiste, il vous dit, il dit par exemple à celui qui est justement qui veut respecter plus la Constitution, les institutions, ou même un sociologue ou un scientifique, il vous dit mais non, c'est faux, il n'y a pas un déferlement de musulmans démographiques, etc. Il dit vous dites n'importe quoi, vous n'êtes pas dans le réel, avec un grand R. Et on se demande ce qu'est ce réel. Alors moi, j'ai assisté à des débats, par exemple sur la question, je prends un exemple, c'est toujours bien d'illustrer, la question de l'euro, avec à l'époque le numéro 2 du Front National, avant qu'il devienne le Rassemblement National, Florian Philippot, un débat sur la question de l'euro, donc l'euro, le système, l'Europe, le système, donc tout ce système qui se met, enfin cette rhétorique populiste qui se met en place, et donc en face, on avait un économiste qui disait, mais... vous êtes contre l'euro pour quelle raison exactement ? Parce qu'on peut être contre l'euro, c'est pas le sujet là en l'occurrence. Mais ce qui était avancé, c'était que la ménagère qui va prendre son café, elle sait bien elle le sent, cette subjectivité transcendantale, que l'euro, c'est mauvais parce que son café, il coûte quand même 3 fois plus cher que ce qu'il devrait coûter, de ce qu'il coûtait, etc. Alors l'économiste lui répond, mais si on prend la pound ou même le dollar et qu'on fait une analyse de l'évolution comparée de la valeur de ces monnaies, on se rend compte que l'euro, finalement, se porte pas si mal et parfois beaucoup mieux en termes. Donc ça, on peut supposer que si on avait gardé le franc, il aurait suivi un cours à peu près comparable et donc le café, il serait probablement aussi 3 fois plus cher. Et alors là, Florian Philippot qui s'énerve et même qui balaye d'un revers de main cet argument et qui dit qu'en gros, de toute façon, ce que dit cet individu, ça prouve bien qu'il est dans son cabinet d'économiste et qu'il fonctionne avec des statistiques et qu'il ne comprend rien, qu'il ne connaît rien. Et que les statistiques, en fait, sa méthode scientifique, c'est presque le même filtrage que pourrait effectuer le fait d'avoir un parlement qui ne dit plus la vérité, dès qu'il y a une médiation, même la médiation de la méthode scientifique, c'est plus le réel. Parce que c'est pas seulement être en contact direct avec le peuple, c'est en contact direct avec ce réel-là, comme si ce réel était, directement branché sur l'oreille, l'intelligence du populiste. Et il lui dit, c'est pas important ce que vous racontez, en gros, parce que l'important, c'est ce que sentent les vrais gens. C'est ce que sentent les vrais gens. Et ça m'avait marqué, parce que c'est ce que sentent les vrais gens, c'est ce que sent le vrai peuple. Et cette notion de vrai peuple, parce que qui dit fiction du peuple total, quand je dis fiction, ça ne veut pas dire que c'est la totalité de la population réelle. Bien au contraire. Parce que la fiction du peuple total, c'est le peuple total, celui qui a cette subjectivité transcendantale, c'est le bon peuple. C'est le peuple qui a la légitimité, mais qui est une légitimité évidemment bafouée. Et là, on verra quand on parlera des causes, une légitimité qui est bafouée. Et donc, ça veut dire que le vrai peuple, le peuple total, qui est en même temps le vrai peuple du populiste, le vrai peuple auquel il s'adresse, il a besoin d'un opposé symétrique qui est le faux peuple ou l'ensemble des faux peuples, c'est-à-dire par exemple des minorités. Des minorités qui ont l'air, ce que j'appelle moi le renvers de passage dans le livre dont vous parlez de minorité quantitative et minorité qualitative, c'est-à-dire que une minorité qualitative, les Roms, par exemple, je prends un exemple, quand j'avais fait une analyse des discours avec certains de mes étudiants sur ce sujet sociologique, les Roms, qui sont fondamentalement minoritaires du point de vue quantitatif, étaient devenus dans le discours qu'on pourrait appeler populiste, ils étaient devenus tellement le faux peuple, donc le faux jeton, ceux qui nous roulent dans la farine, donc ils vont devenir progressivement qualitativement majoritaires, comme si dans l'imaginaire populiste, ils nous encerclaient, même en étant 30 ou 40 fois moins nombreux que nous, entre guillemets. Il y a un encerclement par la minorité quantitative, par une sorte de qualité particulière de ces faux peuples. Et cette qualité particulière de ces faux peuples, on peut la résumer en un mot, c'est l'intentionnalité. C'est-à-dire qu'il y a une intention négative. Alors là, j'en viens au point commun entre les différentes formes de populisme, puisque un des premiers points communs, à mon sens, enfin plutôt, je vais plutôt dresser un... On a dit que c'était une mise en scène. Dans toute mise en scène, il y a des acteurs, il y a des scénarios. Et donc, le populisme se caractérise, à mon sens, et ça, c'est le point commun central, par une mise en scène générale avec 4 groupes d'acteurs principaux qui sont toujours présents, à mon sens, on pourra le discuter, mais à mon sens, dans toutes les formes de populisme, dans ce que moi, j'appelle populisme, quand il y a, à la base de cette mise en scène, justement, la postulation de la fiction, de la subjectivité transcendantale d'un peuple total. Cette mise en scène, elle suppose donc 4 acteurs. D'ailleurs, ces acteurs, ils sont leur réalité, pour ainsi dire, est plus ou moins induite par ce que je viens de vous dire. Premier groupe d'acteurs, c'est évidemment ce qu'on appelle le peuple. Ce peuple qui est le vrai peuple, ce peuple total qui est le vrai peuple. Le peuple qui est le seul à pouvoir être élevé à la dignité de peuple. Et qui est bafoué, qui est écrasé, qui est encerclé, auquel on ment, que le système écrase, etc. Et le discours populiste tend à créer une sorte de sentiment, et je dis bien un sentiment de solidarité entre des groupes d'individus ou même entre des classes qui autrement ne pourraient pas s'entendre parce qu'ils ont des intérêts, pour parler comme Marx, des intérêts objectifs complètement antagonistes. Mais la magie du populisme, c'est d'arriver à dépasser ces intérêts antagonistes en disant « vous êtes le vrai peuple ». Le deuxième groupe d'acteurs, c'est ce que j'appelle le héros ou les héros, ce qui peuvent être des journalistes ou des hommes politiques. Et c'est le héros, c'est celui, et j'emploie le mot héros à dessein, parce que je pense que le cœur de la mise en scène, et je ne crois pas qu'on puisse comprendre le populisme si on n'envisage pas ce cœur-là, c'est une mise en scène avant tout tragique. Je veux dire, ce n'est pas dramatique, c'est tragique, au sens de ce qu'est une tragédie. Je vais y revenir juste après. Donc le héros, c'est celui, c'est pour ça qu'il y a une tragédie, qui se sacrifie, quelque part il y a une forme de sacrifice, hein, pour le bien de ce peuple total, parce que lui, il l'a entendu, ce peuple total. Les autres, non, les institutions sont sourdes, les institutions nous roulent, les institutions complotent, les minorités sont en permanence en train de grignoter. Donc lui, il le sait, il l'a entendu. Et c'est un héros qui se sacrifie. Pourquoi ? Et c'est là la notion de tragédie est importante. Il se sacrifie parce que tout est déjà perdu, 3 points de suspension, ou presque. D'où le rapport entre populisme et, comment on pourrait dire, catastrophisme. C'est-à-dire, c'est foutu, c'est perdu. Donc, ceux qui sont majoritaires, globalement, ont intérêt progressivement à se représenter comme étant minoritaires, c'est-à-dire comme étant encerclés par des groupes, par des situations, par le capitalisme, par tout ce que vous voulez, qui les a déjà écrasés. C'est-à-dire que tout est déjà presque foutu. Et puisque tout est déjà presque foutu, évidemment, celui qui défend ce peuple apparaît comme un héros qui se représente lui-même comme étant une sorte de minorité infime, que tout pousserait à ne pas s'exprimer, mais donc il s'exprime en raison même de cette espèce de valeur héroïque quasi sacrificielle. Alors qu'en réalité, il est majoritaire, évidemment. Et donc il est dans cette... Et l'autre caractéristique de la tragédie, c'est comme je vous disais, comme tout est perdu, le fait que le bateau coule, c'est ce qui permet de dire, pour sauver la démocratie, annihilons la démocratie. Ben oui, puisque c'est foutu. On voit bien que les musulmans, je prends l'exemple, quelque chose que je connais bien, parce que j'avais écrit un livre sur ce sujet, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur le populisme, sur le livre le mythe de l'islamisation, sur cette espèce d'obsession collective. L'idée que tout est foutu, qu'on est encerclé, qu'on est grignoté, que paradoxalement nos institutions vont s'effondrer, ça nous donne le droit pour les sauver de contredire leurs principes, c'est-à-dire en situation d'urgence, de transgresser le constitutionnalisme. Paradoxalement, dans une certaine mesure, pour le sauver, d'où le nom de parti politique étrange, par exemple, effectivement, le Parti de la Liberté, ou le Parti de la Démocratie du Centre, ou même encore le Parti du Progrès en Norvège, qui ont presque tous les mêmes programmes, mais qui, chaque fois, veulent défendre quelque chose qu'ils entendent paradoxalement transgresser pour le défendre. Ils l'ont, ce que j'appelle, patrimonialisé. Ils en ont fait un patrimoine, mais qui n'a plus une signification effective en tant que principe, vraiment effectif, juridique par exemple. Ils l'ont patrimonialisé pour en dire c'est quelque chose qui nous appartient, c'est pour ça que j'emploie le mot patrimonialisé, et ils sont en train de nous le prendre, c'est en train de s'effondrer, donc il faut qu'on se batte contre ça, il faut qu'on se batte contre cet effondrement, qu'on parte en guerre contre ça. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est exactement ce qui s'est passé depuis 2003 avec le concept de laïcité. Je dis souvent à mes étudiants, la laïcité, ça devient de plus en plus le château de Versailles. On le visite, mais par contre, on ne l'habite plus. C'est-à-dire que ça devient de plus en plus quelque chose dont on parle, dont on parle, dont on parle, dont on parle. Mais par contre, l'application effective, c'est quelque chose de beaucoup moins important. Ça devient... Parce qu'il faut la sauver, cette laïcité.